France Musique. Musicopolis. Beethoven versus Rossini, Vienne 1822. C'est un genre de match que vous convie Musicopolis aujourd'hui. Un match musical et amical, bien sûr, et auquel ne prend part que le public. Dans le duel Beethoven-Rossini, ou Rossini-Beethoven, comme vous voulez, ce ne sont pas les compositeurs qui s'affrontent, mais deux goûts différents d'un unique public. Il n'y aura même pas de querelle, comme chez les Français au XVIIIe siècle, juste quelques actions commerciales, au bénéfice de l'un ou de l'autre. Le lieu de la scène est donc Vienne, et nous sommes en 1822. Pourquoi cette année-là? Parce que c'est celle de la visite de Rossini. Le 23 mars, la Wiener Zeitung annonce parmi les arrivées d'étrangers dans la capitale celle de Joachim Rossini, directeur d'opéra avec six virtuoses du chant de Naples. Pour comprendre ce qui se passe entre Beethoven et Rossini, ou du moins dans l'esprit de leur public, tentons donc un panorama de la scène musicale viennoise en La Vienne de 1822 est une ville cosmopolite et depuis longtemps de nombreuses populations y sont présentes. Bien sûr, celles des pays qui font partie de la couronne d'Autriche, pour faire court, les pays d'Europe centrale, mais aussi d'autres Européens attirés par toutes les opportunités de travail qu'on trouve dans cette grande capitale. Parmi les travailleurs immigrés, pour la musique, ce sont principalement des Italiens. Giovanni Priuli, élève de Gabrielli à Saint-Marc de Venise, a été le premier maître de chapelle italien à travailler pour la cour d'Autriche à Vienne en 1619. Le premier d'une longue liste qui continue encore en 1822, puisque c'est alors Antonio Salieri qui est présent à ce poste. Salieri vit à Vienne depuis ses 16 ans, il en a maintenant 72, et on peut dire qu'il a largement contribué à façonner la vie musicale dans sa ville d'élection. Salieri, comme ses prédécesseurs en charge de la chapelle des Habsbourg, comme tous les Italiens venus pour travailler dans la musique à Vienne, a bien sûr défendu l'opéra italien, et sous toutes ses formes, du plus léger buffa au plus dramatique seria. Depuis que l'opéra a été importé en Autriche au XVIIe siècle, des Italiens ont été là pour le défendre, le développer, le mettre en valeur, le glorifier, pour écrire son histoire. Tous les compositeurs italiens d'opéra ont écrit pour Vienne, sont venus à Vienne, et même ceux qui ne viennent pas sont joués par les troupes locales ou itinérantes. Autrement dit, je résume, en 1822, les Viennois connaissent l'opéra italien comme leur poche, c'est leur culture. Si j'osais un pas de plus, je dirais que c'est dans leur gène. Donc, je poursuis. L'opéra italien est tellement dans la culture des Viennois que lorsqu'arrive la musique de Rossini, qu'on entend à Vienne pour la première fois en 1813 avec la Pietra del Paragone, c'est un succès. Et je ne vous dis pas quand Otello est donné en 1819. Là, on frise le délire. Un délire qui va bientôt tourner à la manie. Pendant les années 20 et 30, ce sera une véritable Rossini-mania. Je précise d'ailleurs qu'en cela, Vienne n'a rien à envier aux autres capitales musicales européennes. C'est exactement pareil à Paris ou à Londres. Mais, en fait, la situation est plus complexe, ou plus riche. À Vienne, il y a aussi autre chose que l'opéra. Il y a aussi la musique instrumentale. La musique instrumentale et particulièrement le piano. Pourquoi le piano ? Parce que l'instrument est à la mode. Il y a énormément de facteurs de piano à Vienne et le prix relativement modique d'un instrument permet à de nombreuses familles d'en faire l'acquisition. Et puis, si les jeunes filles de ces familles prennent des leçons qui font vivre de nombreux professeurs, il commence aussi à y avoir beaucoup de virtuoses, ce qui augmente l'engouement. Et puis, conséquemment, on compose beaucoup de musique pour piano, puisqu'il y a tellement de gens qui en jouent. Ce qui permet aux éditeurs de se développer en proposant toutes sortes de partitions. C'est donc toute une économie qui gravite autour du piano. Raison pour laquelle Anton Diabelli, compositeur, pédagogue et éditeur, se propose de faire un recueil qui réunisse les musiciens les plus en vue de Vienne. Il compose une valse, puis il l'envoie à 50 de ses collègues, qui doivent chacun répondre par une variation. Le recueil nous donne une idée assez exacte du paysage musical de son époque. On trouve par exemple Franz Schubert, 25 ans. Ou bien Johann Nepomuk Hummel, ancien élève de Mozart. Ou encore Karl Czerny, auteur de nombreuses études pour son instrument. Non, je ne vais pas vous faire entendre les 50 compositeurs, mais je dois en mentionner un encore, tout de même, c'est Beethoven. Lui ne s'est pas contenté de répondre à Diabelli avec une variation, il en a renvoyé 33. Il a été publié avant tous les autres et il a donné là ce qu'on considère généralement comme un monument de la littérature pour piano. Or donc, en 1822, Beethoven est l'un des compositeurs viennois auquel Anton Diabelli a demandé une variation sur sa petite valse. Et le monument par lequel Beethoven va répondre montre bien sa place sur la scène musicale de son époque. C'est le titan, le génie, le surhomme, Super Beethoven. Il est connu et reconnu depuis belle lurette dans la capitale. Ses concerts sont des événements, mais ils sont rares. Bien sûr, quelques aristocrates et ses amis musiciens ont l'occasion d'entendre sa musique plus souvent, mais le grand public, non. Ses derniers grands concerts remontent en gros à la période du Congrès. En 1814 et 1815, on a entendu des œuvres de lui à plusieurs reprises, en particulier son opéra Fidelio, donné avec grand succès en mai 1814, un peu avant l'arrivée des diplomates. Thank you. Pour Beethoven, 1814 est l'année du pic de sa popularité à Vienne. Cette année-là, il est applaudi par un large public, grâce à son opéra et à des œuvres comme La Victoire de Wellington. Il est reconnu, il reçoit des commandes de hauts personnages, il a acquis une certaine sécurité de l'emploi. 6 ans plus tard, en 1822, l'année de la venue de Rossini dans la capitale autrichienne, Beethoven ne s'est plus produit depuis longtemps. Il a 52 ans, il est sourd, il a beaucoup de problèmes de santé. Et puis ses dernières œuvres sont beaucoup moins, disons, faciles que celles qui avaient fait son succès en 1814. Mais il reste plein d'ardeur pour la création. Il a en chantier ses 2 dernières sonates pour piano, opus 110 et opus 111, un cahier de bagatelles, les variations d'Abelli, la Missa Solemnis et même une grande symphonie avec chœur. En 1822, les Viennois aiment Beethoven, certes. Et dans 5 ans, lorsqu'il mourra, ils seront nombreux à suivre son cortège funèbre. Mais si on leur donne le choix entre un quatuor de ce grand héros et un opéra du jeune Rossini, juste 30 ans cette année-là, ils choisissent le second. Il mio destino.
lascerò, mi rivedrai, ti rivedrò, nei tuoi operai mi pascerò, mi pascerò, mi pascerò, nei tuoi operai mi pascerò, nei tuoi operai mi pascerò.
Beethoven et Rossini se seraient rencontrés en 1822 pendant les trois mois et demi où l'Italien est resté à Vienne. On prête à Beethoven quelques paroles comme « ne composez que des opéras bouffa » ou bien « composez seulement des barbiers de Séville ». Vrai ou faux, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que le séjour de Rossini est incroyablement fructueux, lui rapportant encore davantage de popularité qu'il n'en avait précédemment. Mais Beethoven n'a pas dit son dernier mot. Il poursuit sa route et à travers lui, la musique prend un nouveau tournant, affirmant sa signification morale et esthétique. Épilogue. Lors de la création de la 9e symphonie de Beethoven en mai 1824, deux ans après le passage à Vienne de Rossini, en guise de produit d'appel, comme on dirait aujourd'hui, on peut entendre le fameux air Di tanti palpiti, extrait du Tancrède de Rossini, les deux compositeurs réunis dans une même soirée. Le final de la 9e symphonie de Beethoven, le chœur Monteverdi, l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Eliot Gardiner. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Petite équipe était composée aujourd'hui de Julien Bourdet pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dozolm pour les recherches et le site. À réécouter sur francemusique.fr.